On est né là, on ne cherche pas à aller ailleurs. On vit ici comme on vit n'importe où, hein. Il y a tout, mais c'est une île. C'est un cercle fermé, on ne s'en va pas quand on veut. On est tributaire du bateau ou de l'avion si on veut. On préfère le bateau à l'avion, hein. On ne craint pas le bateau. On va partout, dans tous les pays, mais on est toujours revenu là. On revient à ses souches. On est attaché, hein, attaché à notre île. Je pense qu'on ne saurait pas vivre ailleurs qu'ici. C'est peut-être parce qu'on a notre maison, parce qu'on est né là, c'est ça. Moi, je suis née dans cette maison-là. Alors, ma foi, ben, on est attaché. C'est le grand-père qui a fait construire la maison, puis ça se perpétue, quoi. Les enfants, les petits-enfants, puis voilà. Ça continue. Bon, pour l'activité, ils sont bien obligés de partir, mais quand ils peuvent revenir, ils sont là toujours quand même, hein. Et puis plus tard, ben, quand ils vont gagner leur retraite, ils vont être là aussi. On revient, quoi, après. L'activité, c'est pas évident, hein, de rester sur l'île, suivant ce qu'on fait. Mais on a une qualité de vie que vous n'avez pas ailleurs. Ici, on ne se méfie de rien, on laisse ouvert, on ne craint pas le voleur, on n'est pas bousculé. On prend son temps de vivre.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Parfait fantasme de continentaux, s'en aller vivre dans une île reste généralement au stade de la rêverie, celle que l'on nourrit lorsque le ras-le-bol de la vie citadine nous donne des envies de fuite et d'oxygène. Mais peu de gens en seraient réellement capables. Il faut en effet supporter de vivre dans un espace limité, y croiser sans cesse les mêmes personnes, à qui il devient difficile de cacher ses moindres mouvements et avec lesquels il faut pouvoir coexister en paix. Vivre dans une île, c'est accepter de restreindre son territoire physique et savoir élargir son territoire mental. À moins d'y être né, il est très rare d'y parvenir, surtout lorsque l'île en question n'est pas située sous les tropiques. Élevée à France Inter par l'ami Claude Villers, Gwenaëlle à Bolivie a donc de solides références en matière de reportage radio. Nagra à l'épaule, elle a longtemps arpenté la planète pour nous en rapporter la rumeur. Dorénavant tentée par l'écriture, exercice qui demande un peu de sédentarité, c'est à Ouessant qu'elle a fait escale durant 3 mois de l'hiver 2015, histoire de réaccoutumer son regard à l'introspection. Installée dans l'ancien sémaphore sous le phare de Créache, elle a beaucoup regardé la lumière, écouté le vent, offert sa peau aux embruns et entendu les histoires des Ouessantins, héritiers des navigateurs au long cours, à qui la modernité impose aujourd'hui des choix difficiles. Tu m'avais dit Ouessant, le livre qu'elle en a rapporté est paru aux éditions Le Mot et le Reste. Bonsoir Gwenaëlle à Bolivier.
Bonsoir Kathleen.
Bienvenue chez vous, de retour dans les studios de France Inter. Alors on vous a connu arpentant la planète avec votre Nagra, vous avez écrit quelque chose après votre transsibérien. Mais là, s'en aller en résidence durant les mois d'hiver à Ouessant, c'était pas un choix anodin, c'était pas simplement une expérience de plus, ça correspondait à une quête d'intériorité.
Voilà, un retour au pays natal, en quelque sorte. Je souhaitais ce retour par ce verrou, par cette île, un endroit comme ça, un peu isolé, effectivement, une île, l'île du Ponant, la plus éloignée du continent. C'est un voyage circulaire, justement, après avoir arpenté, après ce grand voyage horizontal à bord du Transsibérien, par exemple. J'avais besoin de cette intériorité, de retrouver mes racines aussi, tout en puisant aussi dans l'écriture radiophonique, car cet exercice littéraire puise vraiment là ses origines. Je pense que c'est une continuité. Et tout avait pris déjà source là, je pense, effectivement.
Oui, c'est quand on lit votre livre, Tu m'avais dit Ouessant, on retrouve votre écriture radiophonique et on retrouve surtout ce que vous savez rendre à l'antenne, c'est la rumeur qui vous environne, notamment lorsque vous prenez le bateau pour vous rendre à Ouessant.
Donc nous partons de Brest, ensuite ce sera après donc cette sortie du Goulet de Brest, passage de la pointe Saint-Mathieu, nous arriverons au petit port du Bonquet, une escale. Ensuite, on va naviguer un petit peu dans les cailloux, là, puisque entre l'île Molène et le continent. Donc là, c'est ce qu'on appelle des mines hein, pour nous. Donc des courants violents et de nombreux récifs. Donc on a plusieurs passages hein, pour y aller. Tout dépendra de la hauteur d'eau, tout dépendra des courants, tout dépendra de la mer. Donc beaucoup de variables.
Marc 2 de Brest-Port.
Ensuite, nous arriverons à l'île Molène. Une jolie petite île, un petit mamelon là, qui se dressait, certains disent même un diamant sur l'océan, Molène. Le soleil de 10 heures, l'arrivée des bateaux. C'est là donc les conditions peuvent se museler parfois entre l'île Molène et Ouessant. Donc là, le passage du front vert avec la sentinelle du front vert, donc on laisse en général sur notre côté bâbord, c'est le phare de Kéréon. Et là donc l'arrivée au port du Stiff, voire au port de Lampol si les conditions sont trop musclées du secteur nord. Et un magnifique grain qui nous arrive dessus.
Voilà un reportage radiophonique diffusé en 2007 sur France Culture, signé Alexandre Hérault. J'imagine que pour vous, Gwenaëlle Abolivier, c'était surtout ce qu'on sent à travers ces sons, c'est-à-dire cette espèce d'ouverture sur l'horizon, de lumière changeante, et puis la petitesse par rapport aux éléments.
C'est vrai, la lumière, on est constamment percé, transpercé, j'allais dire, par ces lumières changeantes, hein, ces quatre saisons en une journée où Essence est constamment balayée par le passage des nuages. Il y a quelque chose, la nature est là, omniprésente, beaucoup plus qu'en ville finalement. C'est ce qui m'a fait rester aussi pendant ce trimestre d'hiver. C'est ce qui m'a fait écrire en fait, hein, c'est ressentir cette puissance de la nature qui nous rappelle à notre fragilité aussi, à cette urgence de vivre et de dire en fait. C'est sur cette urgence et puis cette tension aussi avec les Ouessantins, cette disponibilité qui tout d'un coup s'ouvre comme ça, comme une bulle énorme. On a le temps d'écouter, on a le temps de poser les mots sur la page, c'est formidable.
Est-ce que vous qui avez été à travers le monde l'étranger, qui vient enquêter, raconter, regarder, comprendre. Est-ce qu'au fond, c'est le même sentiment d'étrangeté, d'être l'inconnu qui arrive? Est-ce qu'au fond, c'est la même approche?
Aussi, c'est vrai. Bien que mes origines soient bretonnes, nord-finistériennes, malgré tout, je suis née et j'ai grandi à Rennes, donc dans une autre Bretagne. Parce qu'il y a finalement plusieurs Bretagnes. Il y a cette Bretagne du Bout, comme ça, du Finistère et des îles encore, hein, puisque les îles, c'est encore totalement à part. D'ailleurs, les Ouessantins se disent Ouessantins avant d'être bretons.
Oui, mais d'ailleurs, souvent, les Iliens se comprennent davantage entre eux, quelle que soit l'île sur la carte du globe.
C'est exactement
plus
ça.
Plus qu'avec les continentaux.
Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que les Ouessantins m'ont dit, les plus jeunes aussi. Donc c'est vrai que c'est un monde à part, on y capte aussi les ailleurs en fait, hein. Et c'est vrai que je le dis dès le départ, j'arrive à Ouessant en mouligan, hein. C'est ce mont breton pour dire que je suis l'étrangère et je le resterai, même si les femmes et les hommes m'ont adopté, parce qu'il y a cette capacité aussi à être curieux, à ressentir aussi ce qui vient de l'extérieur, il y a ce besoin aussi hein, pour ne pas vivre complètement entre soi, mais effectivement j'ai su capter les ailleurs aussi parce que Ouessant c'est une île ouverte sur le monde. C'est une île qui s'est enrichie de tous les témoignages et de toutes ces histoires de marins au long cours à travers les siècles. Donc on sent d'ailleurs, lorsqu'on entre dans une maison ouessantine, ce sont de véritables cabinets de curiosité en fait. Hein. Il n'y a pas une famille qui n'a pas rapporté la cafetière ou la théière en porcelaine de Chine. Il n'y a pas une famille où on ne voit pas un caïman comme ça suspendu ou une pierre d'onyx dans ces maisons. Donc c'est assez extraordinaire de voir à quel point c'est le monde finalement. Finalement, qui palpite chez eux.
Alors, quand vous débarquez et que vous commencez à vous installer dans l'ancien sémaphore, sous le phare de Créache, on dit d'ailleurs Créache ou Créac. Moi, j'avais tendance à dire Créac.
Les deux, finalement.
Ah oui, et j'entends beaucoup de Bretons dire Créache, donc j'ai repris Créache. C'est un endroit particulier, c'est là aussi la pointe septentrionale de l'île. Et comment faites-vous, Gwenaëlle Abolivier, dès les premiers jours, pour commencer à apprivoiser l'indigène?
Oui, c'est déjà s'appréhender soi, je crois, puisque on arrive avec ses repères citadins, ses accélérations, il faut temporiser le tempo. Donc je vais retrouver justement dans ce sémaphore qui est bâti sur plusieurs étages, à travers ces escaliers, une forme de partition, de tempo comme ça à ralentir. Donc je pense que c'est déjà soi, finalement, on doit ralentir pour aller vers l'autre, pour se faire accepter. Mais j'allais dire que ça a pris des années, en fait, hein, parce que Ouessant, j'y suis allée au moins pendant 10 ans avant de postuler à cette résidence. Les Ouessantins, les Ouessantines m'avaient déjà repéré dans le paysage. Ils avaient compris plus ou moins ma démarche et je pense que c'est tout ce temps-là. Parce qu'on n'arrive pas comme ça en terrain conquis à Ouessant et nulle part ailleurs d'ailleurs, mais surtout à Ouessant.
Et du coup, il y a quand même quelque chose qui vous a servi, pour une fois quelque part dans le monde, il faut bien que ça serve, vous étiez une femme, parce qu'à Ouessant, il faut dire que ce sont souvent les femmes, je ne sais pas pourquoi je dis souvent, ce sont les femmes qui dirigent un peu cette communauté.
Où il y a des marins, de toute façon, ils s'en vont, hein. Ils s'en vont, ils reviennent, hein. Que ce soit marin d'État ou marin de commerce, c'est la même chose, hein. Les femmes de marins se réunissaient, les enfants jeunes, pour savoir bon, où il est, quel voyage il fait, tu as des nouvelles Oui, les femmes de marins se réunissaient beaucoup, oui. On appelait ça les gorzesses, on se réunissait, bon, c'était le café l'après-midi, puis on tricotait, ou bien on jouait aux cartes, ça arrive aussi. C'était les femmes quand même qui restaient là, hein, qui travaillaient la terre. Maintenant, elle est inculte, mais il fut un temps, elle n'était pas. Hein. Non, même pendant la guerre, 39-45, tout était cultivé, pour le besoin d'ailleurs, mais aussi parce que c'était dans la coutume de le faire, hein. On allait même lever du petit goémon, encore en plus, pour avoir un petit supplément. On avait le plaisir d'aller à la grève, lever du petit goémon, d'aller entre copines, plusieurs, et puis c'était pas toujours facile. Hein. Et puis on avait du plaisir quand on pouvait faire nos 50 kilos, nos 100 kilos. Oui. Après, il y a eu le bien-être. Il y a eu plus d'argent, bon, on a commencé à diminuer le travail. Quand il y a de l'argent, vous savez, on travaille moins.
Gwenaëlle Abolivier, vous avez reconnu la voix de Jeanne Louette, qui est morte l'année dernière. Elle était très âgée. C'était l'une de ces femmes puissantes, on peut le dire, de l'île d'Ouessant.
Oui, Jeanne, c'est émouvant de l'entendre. Cette dame qui m'a ouvert son cœur, qui m'a ouvert sa porte. Jeanne, c'est aussi une mémoire de l'île, qui est partie, en effet, il y a quelques mois. Donc ça parle aussi de cette île qui est en train de changer de monde. Elle change d'époque. Les personnes les plus anciennes disparaissent. Ces femmes qui, effectivement, sont l'identité aussi d'Ouessant. Alors, elles ont réussi à transmettre aux plus jeunes, mais elles ont réussi à transmettre l'idée que, effectivement, l'île, c'est l'île aux femmes. Je pensais que c'était un cliché en arrivant à Ouessant. Je pensais que c'était une vieille histoire, ça. Et en fait, non.
C'est assez logique. Les hommes partaient généralement. Il n'y avait pas d'entreprise. Il y avait eu un peu d'agriculture avant, aujourd'hui. Enfin, ils vivaient aussi du sol, mais les hommes étaient soit marins dans la royale, soit marins dans le commerce. Soit alors sur les bateaux qui font la navette entre le continent et l'île, mais au fond, les sédentaires, c'était les femmes, et c'était elles qui organisaient. Et on entend Jeanne Louette dire il y avait des réunions qui étaient institutionnalisées, où on parlait de tout, où on mettait en commun ce savoir-vivre ensemble.
Voilà, les gorzesses, qui perdurent malgré tout à travers des réunions, à travers la laine, le filage. Alors, elles se retrouvent encore, mais beaucoup moins. Alors, c'est vrai que les hommes partaient, les hommes étaient moins pêcheurs qu'à Molène, par exemple. Tout ce grand commerce a cessé dans les années 80, donc les hommes sont moins partis. Il y a encore une quinzaine d'hommes qui travaillent, que ce soit sur la Brittany Ferry ou bien sur les compagnies comme le Ponant et choses comme ça. Donc tout a effectivement changé. Les nouvelles générations se tournent vers l'ouverture de gîtes, par exemple, ou bien le tertiaire, le tourisme, etc. Les femmes continuent d'être très fortes. Elles sont héritières, justement, de ce qu'ont pu leur transmettre leurs grand-mères, ça c'est certain. Mais le territoire, qui aujourd'hui en friche, malheureusement, puisque l'agriculture cherche une voie en fin de compte, c'était les femmes vraiment. Et Jeanne, elle m'a raconté une chose incroyable, c'était l'année dernière, elle avait encore planté une pomme de terre de son grand-père qui était capornier, ce Martin Harpicard, voilà, qui racontait comme ça régulièrement ses histoires à la Duchessane, à l'hôtel. Il avait ramené une pomme de terre bleue de Valparaiso et elle continuait de récolter, de planter, de semer comme ça, et ses pommes de terre violettes. C'était d'une poésie folle, quoi, finalement, ces pommes de terre qui sortaient de terre comme ça, avec cette couleur des antipodes, du bout comme ça, de la Patagonie. C'est ça Ouessant, en fin de compte. C'est ce caillou habité par 800 personnes aujourd'hui et qui nous parle comme ça, qui rayonne, qui rayonne de ces histoires du monde. C'est fabuleux.
Oui, qui rayonne, on le comprend bien, Gwenaëlle Abolivier, mais en vous lisant, on se rend bien compte aussi que c'est une île qui a, d'une certaine manière, vécu dans les décennies passées avec un système qui, tant bien que mal, avec le retour des hommes, leur départ, les femmes, arrivait à un équilibre. Mais aujourd'hui, c'est une île qui ne sait plus trop que faire de sa jeunesse qui doit s'en aller, mais plus sur les bateaux. Il doit y avoir aussi, est-ce que vous l'avez senti dans vos discussions avec les Ouessantins, une perte d'identité, une perte de destin?
Effectivement, tout se lisse, mais je crois que ce qui se passe à Ouessant, c'est ça qui est étonnant finalement, c'est aussi ce qui se passe ailleurs. C'est la vie exacerbée, c'est à Ouessant, mais c'est une vision comme l'impression qu'on a quelque chose qu'on peut mettre sous une loupe, en fin de compte, un effet grossissant de ce qui se passe ailleurs. Donc cette perte un petit peu de repère se retrouve effectivement à Ouessant, mais partout ailleurs malheureusement. On est arrivé à un moment donné sur une bascule d'un changement de monde. Tout s'accélère là-bas comme ailleurs en fait. Hein. Ce numérique qui prend énormément de place prend aussi sa part là-bas. Donc en fin de compte, la jeunesse se cherche comme ailleurs finalement dans les grandes métropoles ou bien dans les campagnes françaises par exemple aussi. Je pense que ce qui se passe à Ouessant peut être regardé comme un élément d'un grand tout.
Mais alors justement, puisque l'île n'est plus cultivée réellement, est-ce qu'on n'assiste pas au retour de quelques jeunes pour recréer sur l'île ce qui pouvait pousser sur le plan des animaux? Est-ce qu'il n'y a pas un retour à l'agriculture ouessantine?
Pas pour le moment. Alors c'est vrai que la municipalité réfléchit, il y a des initiatives privées, les trentenaires ouvrent des gîtes, tentent de nouvelles choses, mais pour l'instant on est plus sur une phase de réflexion et de tentative. Alors il y a des choses qui se passent beaucoup mieux, par exemple sur d'autres îles du Ponant, sur l'île de Bas par exemple, où l'agriculture est repartie. Bon, il y a une tradition forte d'agriculture là-bas, ou bien sur des îles voisines comme à Molène, où Ouessant semble un petit peu figé pour le moment. Mais il y a d'autres choses, par exemple, d'un point de vue, par exemple, des nouvelles énergies, il y a des hydroliennes qui sont plongées au fond des mers. Enfin, de toute façon, les îles sont étonnantes, elles vont nous surprendre parce qu'il y a là des innovations à tenter. Ce sont des terres d'utopie, toujours, avec tout le revers de la médaille, il faut s'en méfier certainement, mais il y a des choses qui se tentent, et qui pourraient être même des modèles pour le continent.
Et puis il y a une façon de parler aussi d'Ouessant, c'est avec les artistes et notamment évidemment avec Yann Tersien qui a enregistré tous ses derniers albums sur l'île d'Ouessant.
Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est un répondeur radar qui répond au bateau qui passe sur le rail. Chaque fois qu'un faisceau radar sollicite son antenne, il répond la lettre C à ses navires. Donc le petit bruit que vous entendez, c'est actuellement, il est très sollicité, il répond la lettre C, qui signifie créache, au bateau qui passe. Il faut compter entre 150 et 200 bateaux par jour à peu près, hein. Soit en montant, soit en descendant. Donc ils sont tenus d'emprunter les rails de navigation maintenant, depuis que tout ça a été mis en place. Et le phare du créache est équipé de quatre optiques doubles, derrière lesquelles se trouvent quatre lampes au xénon, 1600 watts chacune, ce qui lui confère une puissance exceptionnelle de 108 millions de candélas et qui en fait l'un des phares les plus puissants du monde. Le bateau voit passer, toutes les 10 secondes, deux éclats. C'est le rythme du phare. C'est un phare de grand atterrissage, donc c'est un phare qui se voit de très loin. Il faut qu'il se voit de très loin, sa portée est de 60 à 80 km, sa portée moyenne.
Un petit reportage sonore au phare du Créache. Vous étiez vous-même, Gwenaëlle Abolivier, installée durant cet hiver 2015 dans l'ancien sémaphore en dessous de ce phare. Et il y a une très grande nostalgie à lire les pages que vous consacrez à ceux qui tenaient à ce moment-là encore le phare, comme il y a une très grande nostalgie chez tous les amoureux de ces lumignons de l'océan qui sont peu à peu désarmés en hommes et remplacés par du matériel électronique. C'est quelque chose de, je sais pas, qui fait craindre si un jour l'électronique succombe. Autrefois, les hommes pouvaient toujours arranger les choses. Et là, pour donner des lumières à voir aux hommes qui naviguent sur les océans, il n'y aura plus d'hommes.
Oui, et puis c'est toute la parabole de la lumière, la lumière qui doit continuer de nous indiquer un chemin, j'allais dire. C'est aussi cette dimension-là. Alors c'est tout un patrimoine historique, c'est vrai, qui est en train de sombrer en quelque sorte. On sait qu'il y a déjà des phares qui sont tombés en mer d'Irlande et d'Écosse. Alors c'est assez désolant finalement. Bon, on nous dit toujours qu'il y a un manque de moyens pour continuer les entretenir. C'est aussi des compétences, hein, ces gardiens de phares qui sont des électromécaniciens en fin de compte, hein, dont c'est un métier qui disparaît. Alors ce patrimoine, on continue de le voir, hein, puisque Ouessant est peuplé de 5 phares. C'est assez magique. Pour moi, ce sont des points d'interrogation, d'exclamation, parce que c'est ça aussi, résider sur autant de temps sur une île et avoir cette démarche d'écriture ou d'artiste, en fin de compte, c'est aussi se questionner sur le sens des choses, sur le sens de sa propre vie, sur le cours des choses, voilà, dans quel sens on va finalement. C'est aussi tout ça, les phares. Alors il y a toute cette, c'est aussi des endroits de rêve, hein, lorsqu'on emprunte comme ça les escaliers, 252 marches pour monter jusqu'à cette lanterne de verre, en fin de compte, hein. C'est un petit théâtre comme ça où se passent les choses. C'est des endroits effectivement d'allégorie formidable, en fin de compte.
Oui, et puis dans la parole des hommes que vous avez interrogés, on sent une blessure, mais qui peut se répéter dans plein de métiers qui sont en train de disparaître. Ce sentiment, cette fierté d'abord de tenir des points difficiles de notre territoire humain, cette fierté du travail important, ce sentiment d'être utile, et puis tout d'un coup, voilà, la perte de tout ça. En fait, ça dit beaucoup de choses sur notre pays, pas seulement sur Ouessant.
Oui, effectivement, maintenant les phares seront remplacés par des points géolocalisés. C'est la dimension numérique dans laquelle nous sommes tous en train de basculer, en fin de compte. Ce seront des points sur une carte, des points donc reliés par les satellites, c'est tout ce monde qu'on nous prépare, et on se prépare à entrer dedans de plein pied. A-t-on des choix, voilà, c'est encore d'autres questionnements. Alors les phares, certains aimeraient les préserver pour justement les plaisanciers, pour les pêcheurs, en cas de grands blackout, mais bien sûr, ça pose énormément de questions. Alors c'est les métiers des gardiens de phares, et puis c'est plein d'autres métiers. Je crois que c'est même l'idée du travail au centre de nos sociétés. Quel sens aura le travail? Quel sens a-t-il encore aujourd'hui, finalement? Enfin, je pense que on est au cœur de ces réflexions, là, dans cette fin d'année, autour de toutes ces discussions. On ne peut pas y échapper autour de la retraite. Ça nous renvoie surtout à l'idée du travail, finalement.
Oui, et puis on se rend compte en lisant votre livre, Gwenaëlle Abolivier, en feuilletant les portraits que vous dressez des hommes et des femmes, on se dit que dans ces endroits du monde, qui sont des endroits un peu extrêmes, surtout en hiver, il y a un tempérament qui se dessine au fil des siècles. Ce ne sont pas des humains mollassons, ni des humains... Ils sont obligés d'avoir plus de qualités que de défauts, même s'ils se forcent à les avoir, parce que, au fond, la vie dans ces petites sociétés nécessite de ne pas nourrir de rancunes exacerbées, d'aller un petit peu au-delà de soi-même, et on sent dans les portraits que vous dressez des hommes et des femmes qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les oblige. On va écouter Jean-Yves Cozan, qui était conseiller général de Ouessant, qui est mort aujourd'hui, et qui parlait justement de ce tempérament ouessantin.
Cette communauté s'est faite depuis longtemps. On est là depuis 7000 ans, les humains, ici. Hein. Donc ça s'est construit vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des autres. C'est à la fois très chaleureux, c'est le face-à-face du milieu rural, mais c'est plus que ça, c'est plutôt le communautarisme des Esquimaux. Hein. On est ensemble. Le regard de l'autre est affectueux, mais le regard de l'autre peut tuer aussi. On est sous le regard de l'autre en permanence. Mais l'étranger, c'est autre chose. Comme dans tous les pays primitifs, entre guillemets, l'étranger, c'est qui ? Une fois qu'on sait, ça va. Une fois qu'on sait, on adopte. Mais il faut d'abord identifier. Parce qu'ici, on a des équilibres. On vit dans un milieu qui peut-être est un paradis à 20%, mais où on est ensemble les uns les autres et on a des équilibres fragiles. On dit les îles, c'est le paradis pour les gens qui ne vivent pas. La nature est belle. C'est magnifique. On est dans le présent, dans l'instant qui colle, comme chez tous les primitifs. La vie sociale, la convivialité est très forte. Hein. Donc, ça, c'est un aspect très positif. Mais quand on est entre nous, tout le temps, quand tu vois ton ennemi au bout 10 fois dans la journée, tu lui fais pas la gueule. Tu es gentil. Donc, la vie n'est pas toujours facile. Comme disait le curé de Ouessant, il n'y a pas de vipère à Ouessant, mais il y a des langues de vipères.
Vous aussi, Gwenaëlle Abolivier, vous avez senti cette différence entre l'île rêvée et l'île réelle.
Bien sûr, l'île peut se révéler comme un enfer. Certains parlent d'île prison d'ailleurs. Donc c'est pas effectivement aussi idyllique et paradisiaque. Jean-Yves, ça fait plaisir de le retrouver, en effet, de retrouver sa pensée. C'est quelqu'un qui avait aussi un œil assez ironique, plein d'humour. Il avait tout à fait bien compris. C'est vrai que ce sont des sociétés bien souvent aussi claniques. Donc il y a beaucoup d'opposition, de tension. C'est évident. Je crois que finalement les Ouessantins, ils ont aussi cette dimension de trouver leur juste place, au sens camusien aussi. C'est-à-dire qu'ils savent balancer, trouver l'équilibre. Il le faut, ils n'ont pas le choix. Et finalement, ils ont beaucoup de leçons aussi à nous donner. Et tout à l'heure, je parlais de terre d'innovation, peut-être d'un point de vue économique, écologique, etc. Mais peut-être aussi sociétal, en fait, où on arrive finalement à se respecter, malgré toutes nos différences, à vivre en tolérance. C'est bien de l'envisager comme ça.
Mais au fond, après ces mois d'hiver que vous avez passés, ce livre que vous avez rapporté, Gwenaëlle Abolivier, en dehors du retour à vos racines et de simplement le fait de se poser pour écrire, qu'est-ce que vous pourriez dire que cette île d'Ouessant vous a apporté ? Est-ce qu'elle vous a fait changer d'une manière ou d'une autre, même vis-à-vis de vous-même ?
Elle m'a surtout fait cet énorme cadeau de ce temps accordé, effectivement, dans le sémaphore, et de ce temps qui m'a permis de basculer dans l'écriture, puisque c'est le chemin que j'avais choisi aussi, c'est ça, c'est cette recherche autour de l'écriture, des mots. J'ai découvert, en fin de compte, que l'écriture, c'était tout un exil. Alors ça s'est fait à Ouessant, ça s'est fait face au grand large, parce que c'est l'élément dans lequel je me sens le mieux peut-être. Il pourrait se faire ailleurs et je souhaite que ça puisse continuer ailleurs dans d'autres paysages. Mais c'est ça, c'est cette possibilité de se retrancher et de s'ouvrir de s'ouvrir à sa vraie nature en fait. Ça a été ça ce don.
Merci infiniment Gwenaëlle Abolivier. Je rappelle que votre livre « Tu m'avais dit Ouessant » est édité chez Le Mot et le Reste. Merci à vous.
Merci Kathleen.
Et bonne route et bon voyage.